Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Le roi doit être un père pour son peuple, gouverner avec bonté et chercher toujours à faire le bien commun. Amis auditeurs, bonjour. Cette citation de Louis XVI reflète la vision d'un roi bienveillant, au service de son peuple. Alors qu'aujourd'hui, ce régime apparaît désuet en Europe, les monarchies en Asie jouent toujours un rôle clé, en tant que symbole de l'unité et de la tradition, tout en s'adaptant au système politique contemporain. Penchons-nous sur des réalités ancrées depuis des siècles dans les cultures de ces pays du monde. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. Pour évoquer les différents régimes monarchiques d'Asie, je retrouve sur mon plateau Nicolas Fontaine. Bonjour Monsieur Fontaine.
Bonjour.
Nicolas Fontaine, vous êtes expert des familles royales. Vous créez en 2019 le site Histoire Royale qui est devenu le site de référence sur l'actualité et l'histoire des monarchies du monde entier. Nicolas Fontaine, pour commencer, faites-nous un panorama. Dans quel pays d'Asie retrouve-t-on des monarchies ?
Tout à fait. Donc aujourd'hui, on retrouve 6 pays en Asie orientale qui ont un monarque comme chef d'État. Alors juste, je vous entendais dire que peut-être que c'était un système désuet en Europe. En Europe, on a quand même 10 monarchies héréditaires et en tout, il y a 12 monarchies puisque le Vatican et Andorre sont aussi des monarchies avec un autre système, évidemment. Mais donc, en Asie orientale, on a 6 pays. Il y a le Brunei, le Bhoutan, le Cambodge, la Thaïlande, le Japon et la Malaisie. Je pense que j'ai dit les 6. Et puis, il y a encore quelques petites particularités, notamment en Indonésie, où il y a des monarchies qui sont intranationales. Donc, ce n'est pas le monarque n'est pas le chef d'État, puisqu'il y en a plusieurs. Ce sont en fait des sortes d'États dont le gouverneur, quelque part, est un monarque. Voilà. Notamment le plus connu, c'est le sultanat de Yogyakarta.
En Europe, les monarchies ont essentiellement un rôle symbolique. Est-ce que c'est la même chose en Asie ou est-ce qu'elles ont un réel pouvoir politique ?
Alors, sur les monarchies dont je viens de parler, en fait, mis à part Brunei, où c'est une monarchie absolue, toutes les autres, sur le papier, en tout cas, ce sont donc des monarchies constitutionnelles ou parlementaires. Donc, ça se rapproche effectivement de ce qu'on a chez nous en Europe. Donc, c'est-à-dire que le monarque, eh bien, est une figure, il représente l'État, il est le chef de l'État, et c'est une figure symbolique qui a des pouvoirs très limités. Alors, comme dans la plupart des pays, souvent, ces pouvoirs, symboliquement, il est le chef des forces armées, c'est lui qui typiquement signe les lois, et en fonction des pays, parfois il a plus ou moins de pouvoir, comme par exemple nommer certaines personnes à des hauts postes, etc. Mais donc ça se ressemble très fortement. Maintenant, il y a parfois certains pays où il peut y avoir des dérives ou des tentatives de prise de pouvoir plus importantes.
Dans une monarchie absolue, le souverain a tout le pouvoir ?
Pratiquement. Alors après, dans le cas de Brunei, évidemment, ce qui est un petit peu particulier et ce qui lui donne plus de pouvoir, c'est le fait que c'est un tout petit pays, c'est un micro-État. Et donc, finalement, c'est vrai que si on peut comparer ça, c'est comme on dit chez nous, le maire est l'élu préféré des Français, on dit. Pourquoi ? Parce que c'est une personne, finalement, qu'on peut croiser dans la rue et qui a un pouvoir direct sur ce qui se passe dans notre vie tous les jours. Là aussi, comme c'est un tout petit pays, finalement, eh bien, le souverain a beaucoup de pouvoir. Un petit peu aussi comme c'est le cas à Monaco, finalement.
On a très rapidement parlé des familles royales d'Europe. On en retrouve en Grande-Bretagne, en Espagne ou encore en Belgique. Les monarchies asiatiques peuvent-elles être comparées à celles d'Europe, Nicolas Fontaine ?
Sur le fonctionnement, on peut le faire, oui, tout à fait. Maintenant, il y a beaucoup de différences, mais qui sont plutôt, je pense, liées à la culture même du pays, déjà. On a aussi beaucoup de changements au niveau de la façon dont fonctionnent ces monarchies. Par exemple, au Bhoutan, on avait auparavant un roi extrêmement conservateur qui a permis, ceci dit, d'ancrer une identité très forte dans le pays. Il imposait, par exemple, les tenues traditionnelles. Il a fait des choses beaucoup plus controversées, comme expulser des Népalais de son pays. Donc voilà, maintenant, son fils, qui lui a succédé, eh bien, est un monarque plutôt ancré dans la modernité. Il est toujours le garant de cette identité et des valeurs bhoutanaises. Mais par contre, il fait sa communication sur les réseaux sociaux comme les monarchies européennes, sur Instagram, sur Facebook. Il communique d'ailleurs en anglais. Il fait toutes sortes d'engagements publics qui ressemblent très fortement à des engagements publics que pourrait faire un monarque dans nos pays. Voilà, donc par exemple, là, c'est le cas d'une monarchie, je trouve, qui ressemble fortement, en tout cas qui veut s'ouvrir et ressembler un peu à une monarchie plus occidentale. Et puis il y en a où c'est quand même très très différent, notamment plutôt les monarchies qui sont musulmanes, en fait. Puisque dans ces pays-là, on a des monarchies qui sont soit bouddhistes ou shinto au Japon, et les autres sont musulmanes, je pense, à Malaisie et Brunei.
Ces pays dont vous nous parlez n'ont pas connu de révolution qui ont changé le régime politique. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est la culture qui préservait finalement ces monarchies? Est-ce que c'est le sens de l'histoire?
Oui, tout à fait. Les deux, en fait. Parce que dans une partie de ces monarchies, ce sont des anciens protectorats britanniques, dans le cas de Brunei et de ce qui s'est passé en Malaisie. Et durant cette époque britannique, c'est vrai que leur colonialisme était un peu différent de ce qu'on a pu faire en France. C'est que les Britanniques laissaient le pouvoir en place dans ces pays-là. Donc finalement, il y a toujours eu un sultan à Brunei, même lorsque Brunei était britannique. En Malaisie, la Malaisie n'existait pas telle qu'elle auparavant. C'était plusieurs États, plusieurs sultanats. Et là aussi, les sultans ont continué à exister. Et quand les Britanniques se sont retirés finalement et qu'il a fallu reconstruire ou en tout cas se créer une identité au pays, eh bien, on s'est tourné et le sultan était plutôt là pour rassembler finalement le peuple, être aussi là pour véhiculer toutes ses valeurs et permettre l'héritage de ce qui existait avant que les Britanniques n'arrivent et de le perpétuer après. Ça, c'est dans ce cas de ces pays-là. Maintenant, dans les autres pays, Oui, de toute façon, le monarque est là pour rappeler finalement l'identité et les valeurs de manière générale, oui.
Les peuples sont-ils attachés à leur monarque? Est-ce que ces monarques ont une bonne cote de popularité, Nicolas Fontaine?
En fait, c'est une question difficile à dire, tout simplement parce que c'est vrai que dans nos pays, on a des indices clairs, puisque par exemple, on fait des sondages ou des enquêtes d'opinion. Dans certains pays, chez nous, on va carrément jusqu'à attribuer une cote de popularité à certains princes ou princesses, voilà, c'est quelque chose de quantifiable. Et puis, on peut aussi voir l'engouement qu'il y a lorsqu'il y a une manifestation publique qui est liée au monarque dans nos pays. On sait que ce n'est pas quelque chose de fin, puisqu'on est quand même dans des démocraties et dans des pays relativement libres. Donc, lorsqu'il y a ce genre de manifestation, on l'a encore vu à la mort d'Elisabeth II, même au couronnement de Charles III, il y a quand même véritablement un engouement, un attachement au monarque. Dans les pays asiatiques, c'est un peu plus compliqué à dire, parce que finalement, en fait, on est quelque part obligé parfois de vénérer le souverain. Et donc, est-ce qu'ils sont obligés de le faire ou pas? C'est très, très difficile à dire, d'autant plus qu'il y a quand même le crime de lèse-majesté qui est d'application dans plusieurs pays. Donc, il faut être assez courageux pour pouvoir dire quelque chose à l'encontre du roi. Le crime de lèse-majesté existe toujours aux Pays-Bas et en Espagne, mais là, on parle de personnes qui proféreraient des menaces de mort, par exemple, à l'encontre du souverain. Dans des pays comme la Thaïlande, exposer, même publiquement ou sur les réseaux sociaux, des choses qui iraient à l'encontre du monarque, on peut encourir des peines assez lourdes jusqu'à l'emprisonnement. Donc c'est difficile de savoir, en fait, véritablement l'attachement qu'on peut avoir par rapport au souverain. Maintenant, comme je disais, dans un petit pays comme Brunei, on sait que la population, finalement, apprécie quand même le souverain. Pourquoi? Parce qu'il Il offre des résultats. C'est un pays qui se porte bien, qui est prospère, donc c'est vrai que c'est un monarque absolu. Il a rétabli la charia, il n'est pas du tout tendre, mais finalement, ça va aussi de pair avec ce que vit la société, ce qu'elle pense, qu'elle partage comme valeur. Et puis finalement, c'est un pays où il fait plutôt bon vivre, on va dire. Donc par exemple, dans un pays comme ça, il y a un attachement au souverain.
On va rentrer au cœur du sujet, Nicolas Fontaine. Amis auditeurs, je vous emmène en Thaïlande. La monarchie existe en Thaïlande depuis 1238. C'est aujourd'hui le roi Rama X qui règne depuis 2016. Il a succédé à son père Rama IX, très apprécié. Pourtant, aujourd'hui, il suscite de nombreuses controverses du fait de son style de vie extravagant.
Donc, c'est vrai qu'il est en totale contradiction avec son père. Et si bien que, avant la mort du précédent roi, on se posait même la question de qui serait là pour lui succéder. On pensait même à une des filles, donc une des sœurs du roi actuel, parce qu'il avait un mode de vie assez particulier. Donc c'est un, C'est un homme qui, avant son couronnement, avait déjà divorcé 3 fois, mais dans des conditions en plus particulières. Il a eu des enfants, parfois avec certaines épouses, avant d'avoir divorcé de la précédente. Il a eu un premier mariage avec une cousine qui était un mariage arrangé qui n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, il a épousé une actrice avec laquelle il a eu 4 fils et une fille. Celle-ci s'est enfuie. Il est allé jusqu'à, on va dire, récupérer la fille au Royaume-Uni. Cette fille est aujourd'hui princesse et vit en Thaïlande. Par contre, les 4 fils et cette épouse ont été répudiés. Maintenant, ils vivent aux États-Unis presque une vie anonyme. Et c'est presque dommage, on va dire, parce que ces 4 fils-là, d'après ce qu'on sait, parce qu'aujourd'hui, ils parlent un petit peu plus, ce sont finalement des gens plutôt sains dans leur tête. Ce qui n'est pas le cas des autres membres de la famille qui sont un petit peu particuliers. Donc, ça, c'est la 2e épouse. Ensuite, il a eu une 3e épouse avec laquelle il a eu le prince Dipankorn. Elle aussi, elle a été répudiée. Elle vit aujourd'hui recluse dans un endroit tenu secret. Voilà, elle est emprisonnée. Et puis, finalement, lorsqu'il a succédé à son père, c'était un homme relativement absent. On ne le voyait pas, si bien que son couronnement n'a eu lieu qu'en 2019, alors qu'il est monté, il a succédé à son père en décembre 2016. Et quelques jours avant le couronnement, l'avant-veille, il a dû se marier, puisque les cérémonies de couronnement prévoyaient en fait qu'il y ait une place pour une épouse, pour la reine. Donc à ce moment-là, il a épousé sa 4e femme, qui était la maîtresse favorite de l'époque, et qui est aujourd'hui la reine officielle de Thaïlande, la reine Suthida. Ce n'est que le début, parce qu'en fait, quelques mois après ce couronnement, finalement, il a aussi rendu public sa relation avec une autre maîtresse, à qui il a donné un titre, on l'appelle aujourd'hui la noble consort. Elle aussi, ça n'a pas été facile avec elle, elle a fini par aller en prison, puis elle est sortie de prison. Enfin, les histoires sont assez rocambolesques. Ça, c'est pour sa vie privée. Maintenant, ce qui est plus peut-être compliqué au niveau du régime politique, c'est que c'est quelqu'un de très instable. En plus de ça, il souffre de problèmes de santé graves. Là aussi, c'est quelque chose dont on ne peut pas trop parler, mais vraisemblablement, c'est une maladie auto-immune. Et c'est quelqu'un qui, pendant toute une période de sa vie, a vécu en Allemagne. Et les Thaïlandais se sont rendus compte de ça lors de la pandémie, parce qu'à ce moment-là, il a fallu signer très très rapidement des actes, etc., des lois, et on s'est rendu compte que personne n'était là pour les signer. Et donc, il y a eu pas mal de scandales. Et pour la première fois, alors qu'il y a une répression très importante lorsqu'il y a des soulèvements contre le roi, et bien pour la première fois, il y a eu pas mal de manifestations anti-monarchistes à ce moment-là, dans les rues. Et on a appris pas mal de détails très croustillants concernant la vie du roi, qui vivait avec son harem dans un étage d'une station de ski en Bavière. La reine Suthida, elle vivait dans une villa en Suisse. Voilà, alors en plus de ça, c'est un peu un original. On peut le croiser en crop top ou en slim dans la rue. Il a promu son caniche maréchal de l'air. Enfin voilà, c'est des choses un peu particulières autour de ce roi.
C'est déjà l'heure de la pause, Nicolas Fontaine, c'est passionnant. Tout de suite après la pause, on va aller en Malaisie, on va aller au Japon. Amis auditeurs, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite, juste après ça. venez d'écouter « Rappelle-toi, Jeanne » du groupe des Padrés. Et nous retrouvons Nicolas Fontaine, qui a créé le site Histoire Royale, le site de référence sur l'actualité et l'histoire des monarchies dans le monde. Nous quittons la Thaïlande, Nicolas Fontaine, pour partir en Malaisie. La Malaisie qui a un régime politique unique au monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste ?
Donc la Malaisie, pour des raisons historiques, en fait, c'est une fédération qui est composée de 13 États. Et dans ces 13 États, 9 sont des monarchies. Donc ça veut dire qu'il y a un monarque qui règne sur ces États. C'est un petit peu comme il peut y avoir aux Émirats Arabes Unis qui est composé d'Émirats ou aux États-Unis qui est composé d'États ici. Donc en Malaisie, on a ces 13 États dont 9 sont des monarchies et la plupart sont des sultanats. Et tous les 5 ans, les dirigeants de ces États se réunissent pour élire le roi. Donc c'est-à-dire en fait celui parmi les monarques, donc seulement parmi les 9 monarques du pays, qui va devenir le roi, le chef de l'État de Malaisie. Donc il va quitter son sultanat durant 5 ans pour aller régner à Kuala Lumpur, la capitale. Et pendant qu'il règne, eh bien, dans son sultanat, il va nommer normalement son héritier, donc le prince héritier va jouer un rôle de régent durant ce temps-là dans le sultanat. Alors, ce système électif, effectivement, c'est assez unique au monde. Par contre, juste pour préciser, cette élection, finalement, n'est qu'une formalité, puisque pour ne pas qu'il y ait, justement, de problèmes, etc., pas de jalousie, il y existe, en fait, une liste préétablie à l'avance de l'ordre dans lequel chaque sultan va régner. Donc, cette élection n'est juste là que pour formaliser l'accession au trône du nouveau roi, mais on sait déjà à l'avance quel sera le prochain sultan à régner.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le sultan qui règne actuellement ?
Donc, le roi actuel de Malaisie, c'est le roi Ibrahim Ismail, qui est à l'origine le sultan de Johor, un des sultanats de Malaisie. C'est un homme de 67 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui est une des grandes fortunes du pays. Il a fait sa fortune dans l'immobilier, il a des parts dans pas mal d'entreprises. C'est un homme qui est un petit peu plus modéré d'ailleurs que ses prédécesseurs. Il a par le passé critiqué notamment le phénomène d'arabisation du pays en Malaisie. Alors on ne sait pas encore énormément de choses sur lui puisqu'il est monté sur le trône l'année dernière. Donc il n'a pas eu encore beaucoup d'actions notables pour le moment. Et il y a évidemment une chose, c'est qu'on a du mal quelque part à s'attacher, en tout cas en tant que commentateur des monarchies, c'est plus difficile de s'attacher finalement à ces rois puisqu'il y a ce système qui fait que tous les 5 ans ça change. Et en plus de ça, au niveau culturel, il y a quand même des petits changements puisqu'ils proviennent chacun d'une région différente du pays.
On part à présent de la Malaisie pour retrouver le pays du soleil levant, le Japon. L'abdication du roi et de l'empereur, surtout Akihito, a déclenché un véritable séisme politique. Cette abdication était historique car c'était la première fois qu'un empereur japonais abdiquait depuis 1817. Son fils Naruhito lui a succédé. Quel genre d'empereur est-il ?
Eh bien, là aussi, c'est en fait une question assez compliquée à répondre parce que donc, Naruhito a succédé à son père en 2019. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, tout se fait avec un certain cérémonial. On prend son temps dans le respect, etc. Donc, quand il est monté sur le trône, il y a eu toutes sortes de cérémonies. On avait quand même prévu au moins une année pour faire cette espèce de changement de règne. Et puis, finalement, est arrivé assez rapidement le Covid, ce qui a brutalement arrêté toutes les activités de la famille impériale. En Asie, évidemment, tout le continent a été lourdement impacté par la pandémie et ça ne fait même que quelques mois qu'on a levé toutes les dernières mesures au Japon, si bien que encore l'année dernière, lorsque l'empereur ou sa famille participait à des événements, il devait encore mettre un masque, on essayait encore de restreindre pas mal de choses. Donc ça a laissé très peu de temps pour découvrir pleinement qui est cet empereur, d'autant plus que là-bas, l'empereur fait des apparitions très très rares. Tout ce qu'il fait est toujours très mesuré. On a beaucoup de mal à l'approcher, etc. Donc l'empereur, c'est très difficile finalement de pouvoir dresser un portrait de lui, si ce n'est que l'on sait, parce qu'il a quand même été prince héritier avant cela, donc on connaît quand même des choses sur lui, des choses par rapport à ses hobbies, il aime le sport, c'est un très très bon musicien, il joue du violoncelle par exemple. C'est le genre de choses que l'on sait. Maintenant, quel type de monarque, c'est très difficile à dire parce qu'il y a très peu de marge de manœuvre qui permet véritablement à l'empereur de laisser sa patte par rapport un autre empereur. Et pour juste dire quelle est la difficulté qu'on peut avoir d'être membre de cette famille impériale, il faut dire que son épouse souffre de dépression. C'est pas quelque chose que l'on cache. Elle souffre de dépression. Souvent, elle doit être absente. Elle ne peut pas être là. Et la mère de l'empereur, qui elle-même a été impératrice auparavant, elle aussi a souffert beaucoup de ses problèmes d'adaptation pendant toute une période de sa vie. Elle a été muette. Elle a perdu la voix à cause des traumatismes liés à un mal-être, à l'anxiété qu'elle vivait en tant qu'impératrice. Donc, c'est très, très difficile d'être membre de la famille impériale, en fait.
Le numéro 1 sur la liste pour lui succéder, c'est son neveu, Hisahito. Comment éduque-t-on un prince héritier ?
Bien, dans le cas d'Hisahito, c'est particulier parce que, effectivement, au Japon, tout est extrêmement codifié. Et étonnamment, dans son cas, on s'est montré beaucoup plus souple. Déjà, rien que le fait qu'il ait pu suivre une partie de toute son éducation jusqu'ici dans une école qui n'est pas habituelle pour un prince. D'habitude, les princes vont dans l'école de Gakushin, qui est une école dans laquelle vont uniquement les membres de l'aristocratie, les nobles ou les personnes vraiment de grandes familles. Lui, il n'est pas allé dans cette école-là. Et là, maintenant, il rejoint tout juste l'université, parce que l'année académique va de avril à mars au Japon. Donc là, ici, en avril, il rentre à l'université et il a choisi de s'inscrire dans une faculté de sciences. Il va étudier la biologie. Donc, ça peut paraître surprenant parce que, donc, effectivement, il est appelé un jour, probablement, à devenir l'empereur. Et on ne se dit pas qu'un empereur va étudier la biologie, mais lui, c'est ce qu'il aime. Il est d'ailleurs spécialisé en entomologie, qui est l'étude des insectes. Il adore les insectes et les libellules, mais il a de qui tenir parce que son grand-père, l'ancien empereur, donc Akihito, lui, en parallèle de son règne, pendant toute sa vie, il a continué à mener des recherches en biologie. Il est spécialiste d'études des gobies, c'est un type de poisson, et il a découvert pas mal de variétés de gobies durant tout son règne, et maintenant qu'il est à la retraite, il continue à mener cette passion, mais vraiment de manière très professionnelle. Vous l'avez dit, Hisahito est l'héritier présomptif, et en fait, on porte tous les espoirs sur lui, parce qu'à l'heure actuelle, il est, on va dire, le dernier héritier du trône. Alors après lui, il y a encore une autre personne, mais cette personne a plus de 80 ans, donc il est très peu probable qu'elle ait un descendant. Donc lui est la seule personne qui puisse encore aujourd'hui donner une descendance et donc faire perpétuer cette dynastie millénaire. Donc tous les regards se portent sur lui. Alors en fait, la loi salique est toujours d'application au Japon, ce qui fait que l'empereur actuel n'a qu'une fille unique, donc elle ne peut pas lui succéder. Son héritier actuel est donc son frère, le prince héritier Fumihito, et donc c'est le fils de Fumihito, le seul fils de Fumihito, qui est aujourd'hui deuxième dans l'ordre de succession, mais qui un jour devrait devenir l'empereur.
On va faire une dernière étape dans notre voyage asiatique en regardant les monarchies. J'aimerais vous parler de l'ancien roi du Népal, Nicolas Fontaine, Gyanendra Shah, qui a récemment fait parler de lui en raison de son retour à Katmandou, la capitale, où il a été acclamé par des milliers de partisans qui espèrent une restauration de la monarchie. Tout d'abord, pourquoi a-t-il été renversé et est-ce qu'un retour de la monarchie dans ce pays est envisageable ?
Donc, c'est effectivement le dernier roi à avoir été renversé au monde, c'était en 2008. Avant cela, le règne de Gyanendra n'a jamais été de tout repos, il était assez compliqué, un roi très impopulaire. En 2005-2006, il a tenté plusieurs coups d'État et renversé pas mal de choses pour se réapproprier le pouvoir et transformer un peu le pays en monarchie absolue, ce qui lui a valu sa place sur le trône. Alors c'est en plus de ça un roi qui a pas mal de controverses parce qu'on se souvient qu'en 2001, il y a eu le massacre de la famille royale du Népal. Donc là aussi, il y a des soupçons. Peut-être serait-il derrière pour avoir pris le trône à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un renversement qui va avoir lieu, puisqu'il pourrait y avoir un retour à la monarchie au Népal. Là encore, très récemment, il y a eu des manifestations très importantes.
Un immense merci, Nicolas Fontaine, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Histoire Royale, le site de référence sur l'actualité des familles royales. Amis auditeurs, je vous remercie au nom des Missions étrangères de Paris pour votre fidélité à l'émission et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine dans la joie de Pâques. Le roi de nos âmes est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Que la paix soit avec vous.